Vivre FM podcast. Jusqu'à 13h,
la parole aux aidants sur Vivre FM.
Christophe Bougnot,
Michel Guimel-Chambonnet.
Bonjour, c'est la parole aux aidants. Soyez les bienvenus, on se retrouve comme chaque vendredi à midi pour cette émission qui vous est consacrée. Vous aidez au quotidien votre parent, votre enfant, votre conjoint. Vous rencontrez des difficultés, eh bien n'hésitez pas à témoigner sur Vivre FM ou poser vos questions. Je suis avec Michel Guimel-Chambonnet, la psychologue qui vous écoute et vous conseille. Alexandre Houbard a fait le choix de vivre chez ses parents pour aider au quotidien son père Gilles, atteint de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie neurodégénérative diagnostiquée chez lui en 2011. Afin de faire connaître la maladie et de se prouver que tout est toujours possible, ils participent tous les deux, père et fils, au relais en fauteuil électrique de l'association La Longue Route des Malades de la SLA. Ils partiront de Savoie le 30 mai pour rejoindre Paris le 11 juin, une course originale à laquelle ils se sont préparés tous les deux, avec prudence mais détermination, une belle occasion aussi d'enrichir la relation entre l'aidant familial, le fils, et la personne aidée, le père. Ils nous racontent cette aventure aujourd'hui dans La Parole aux Aidants. Vous aidez, on vous aide.
La Parole aux Aidants avec Malakoff Médéric.
Bonjour Michel.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Soyez les bienvenus, c'est La Parole aux Aidants. On est heureux de vous retrouver sur Vivre FM comme chaque vendredi pour cette émission consacrée aux aidants familiaux. Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint, vous rencontrez des difficultés, vous avez des solutions à partager. C'est très facile, il vous suffit de témoigner sur l'antenne. Le numéro de téléphone à votre disposition, c'est le 01 56 88 40 20. Je suis accompagné, comme chaque vendredi, de la psychologue Michel Guimel-Chambonnet, qui vous écoute et vous conseille. Dans la dernière partie de l'émission, Michel répond à vos questions Internet et Facebook. N'hésitez pas à les lui poser. Michel, nous accueillerons dans quelques instants notre aidant du jour à l'origine d'une aventure assez extraordinaire. Mais d'abord, l'info de la semaine. Le premier salon des aidants a été organisé par l'association des services à la personne Pôle SAP à Torcy en Seine-et-Marne avec le soutien de la mairie. Des témoignages d'aidants, des temps d'écoute et de partage avec les partenaires sont prévus. Vous retrouvez les infos sur polesap.reseau77.asso.fr. On en parle parce qu'il s'agit du tout premier salon des aidants en France avec un slogan « Aidants familiaux, accordez-vous une pause et venez découvrir les solutions » qui vous conseillent et qui vous conviennent, Michel. Un salon des aidants, comme il y a un salon du livre ou le salon de l'auto, c'est une idée bizarre ou très utile ?
Ah non, c'est une idée très intéressante, parce qu'effectivement, la plupart du temps, les aidants ignorent leur rôle, si on peut dire, et évidemment, ils n'ont pas idée qu'ils pourraient être aidés dans leurs tâches de tous les jours. Donc c'est très intéressant qu'il y ait quelque chose qui présente différentes possibilités à la fois d'aide et de répit, de pause, comme le dit la phrase qui caractérise cette manifestation. Donc c'est tout à fait intéressant.
L'aide pour la personne dépendante, le répit pour ceux qui aident, ceux
tout
qui témoignent
fait.
Dans notre émission, les aidants
tout
familiaux.
À fait. Et le bienfait pour tout le monde.
Alors est-ce qu'un aidant familial un peu débordé et très peu informé va trouver la ressource en lui et le courage de se rendre à ce genre de manifestation ?
C'est toute la question. D'abord, est-ce que l'aidant, qui a ce rôle effectivement quotidiennement, va savoir que ce salon s'adresse à lui ? Ça, c'est la première chose, et c'est pas gagné. Et ensuite, est-ce qu'il aura le courage de se rendre dans un endroit, peu importe la localisation géographique, mais est-ce qu'il aura le courage de se rendre dans un endroit, surtout s'il y va tout seul ? Il faut vraiment se pousser pour faire des démarches pour soi. Donc, il peut prendre prétexte de « j'ai trop à faire » ou « si je peux me libérer une heure, c'est pas pour aller m'enfermer dans un salon, je vais essayer plutôt d'aller me faire couper les cheveux ou d'aller chez le dentiste. »
Pourquoi pas, donc, d'ailleurs.
Voilà. Oui, c'est bien aussi. Et le dentiste, c'est nécessaire. Mais en tout cas, c'est passer à côté d'informations qui pourraient plus tard lui rendre vraiment service. Donc, c'est en ce sens que c'est un peu dommage. Il faudrait plus rappeler à toutes les personnes qui s'occupent d'une personne dépendante qu'elles font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les aidants familiaux.
On le répète tout le temps, toutes les émissions.
Nous, on le répète.
Ce sont les proches, les aidants familiaux.
Oui,
ça veut dire nous tous. Ça nous arrive à un moment de notre vie.
Ça, c'est sûr.
D'aider et d'être aidé, d'ailleurs.
Tout à fait. Mais est-ce que les personnes concernées en ont suffisamment conscience ? C'est tout le problème est là.
Si vous avez été aidé par ce type de manifestation ou d'autres initiatives, vous pouvez témoigner dans l'émission 01 56 88 40 20. C'est le numéro du standard de Vivre FM, 01 56 88 40 20. Notre aidant du jour accompagne au quotidien son père Gilles, qui est âgé de 59 ans et atteint de la sclérose latérale amyotrophique depuis 2011. C'est une maladie neurologique évolutive provoquant un handicap moteur notamment. Il est avec nous au téléphone, Alexandre Houbard. Bonjour.
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 Alors nous verrons au cours de cette émission quelle aide concrète vous et votre mère Josiane apportez à Gilles. Vous vivez au domicile de vos parents. Alexandre, vous êtes aussi secrétaire de l'association La Longue Route des Malades de la SLA, à l'origine du relais en fauteuil électrique qui débutera le 30 et reliera la Savoie, votre région, à Paris. Parlez-nous du parcours qui est prévu et des conditions dans lesquelles cette course vraiment originale va se dérouler.
Alors oui, donc ce relais est une idée qui est née de mon père, en fait, suite à une discussion avec plusieurs collègues. La SLA étant une maladie très peu connue, il voulait apporter une action de médiatisation pour faire parler de la maladie, faire parler des malades. Et du coup, en fait, ils ont eu l'idée de faire un relais en fauteuil roulant électrique qui partira donc de Bellentre, en Savoie, dans la Tarentaise, pour rejoindre en 13 étapes sur 788 km Paris, la Pitié-Salpêtrière, où le dernier jour, en fait, nous ferons une manifestation entre la Pitié-Salpêtrière et le ministère de la Santé.
Alors combien il y a de personnes qui participent et comment ils vont se déplacer? Parce que c'est ça l'originalité de ce relais. Hein.
Alors sur la base, nous avons donc en un premier lieu mon père, Gilles, qui nous va donc faire une grande partie, pas la totalité, mais une grande partie du trajet en fauteuil roulant électrique pour lui. Et nous avons aussi avec nous Fabrice, une personne qui a fait une chute lors de son travail et qui a eu des liaisons à la moelle osseuse, donc qui est paraplégique et qui va faire espère faire la totalité du relais du parcours sur les 788 km en handi-bike. Après, au fur et à mesure que les étapes vont avancer, nous allons avoir plusieurs personnes atteintes de la SLA qui vont prendre le relais de mon père pour pouvoir faire une partie des étapes avec nous.
Alors c'est une vraie belle chaîne de solidarité et je crois qu'on peut dire que la Radio Vivre FM vous encourage dans cette belle aventure qu'on va soutenir et dont on va essayer de parler aussi dans le cadre de l'information. Votre papa est un homme sportif, un chasseur alpin. Qu'est-ce que ça signifie pour lui de participer à une telle aventure, notamment dans une période où il est malade maintenant?
Alors pour lui, c'était vraiment sortir de aider les malades à sortir de l'isolement, en fait, parce que les personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique ont tendance à beaucoup, beaucoup s'isoler, se renfermer sur elles-mêmes et sortent très peu du cocon familial. Donc ça représente aussi le moyen pour lui de mettre en lumière ces personnes qui vont justement venir avec nous, sortir de cet isolement pour faire parler de la SLA.
Alors ça, c'est important, Michel, de sortir. C'est vrai que la maladie isole, ce n'est pas forcément de la faute des personnes. On peut moins se déplacer, on peut être fatigué, on peut avoir mal. Et forcément, ça ne donne pas toujours envie de se surpasser.
Oui, quand il y a une poussée et que la personne est en train de souffrir particulièrement et de voir son champ d'action se rétrécir, effectivement, ça ne l'encourage pas du tout à sortir, à aller parler aux autres. Mais heureusement, il y a des périodes relativement importantes en temps où la personne peut mener une vie presque normale. Et à ce moment-là, il faut absolument qu'elle sorte, qu'elle ait des contacts, qu'elle essaye de garder une vie sociale aussi riche que possible par rapport à son envie à elle, hein, bien sûr. On ne se force pas. Mais si c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, ben c'est important de continuer de voir ces personnes-là qui l'entouraient. Et plus on explique où on en est, mais pas tous les jours et pas en radotant, bien entendu, mais plus l'entourage va comprendre et venir de temps en temps, prendre un café, discuter, apporter le journal. Enfin, vraiment que des petites choses, mais qui vont, mises bout à bout, continuer à faire une organisation sociale autour de la personne malade.
Et de temps en temps, on peut se lancer des défis aussi et sortir un peu de
l'ordinaire. Voilà, quand on a une meilleure forme, et ben effectivement, on fait une action de plus grande envergure. Mais ce que dit ce monsieur est tout à fait juste. Pour avoir côtoyé beaucoup de personnes qui avaient cette maladie de la sclérose en plaques, effectivement, j'ai constaté ce repli sur soi qui est vraiment très néfaste à tout point de vue.
Alors là, on a une famille de maladies neurodégénératives, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique. Il y a des différences et aussi des points communs,
bien sûr.
Votre père Gilles s'est préparé à cette aventure. Vous allez pouvoir nous dire comment, mais je voulais aussi vous demander pourquoi vous avez choisi de l'accompagner tout au long de ce défi.
Alors, au moment où s'est concrétisée l'idée, il y a eu une réunion avec tout plein d'amis et de membres de la famille, de proches à la maison, et quelques jours avant ça, mon père avait demandé à un ami à lui, Monsieur Briançon, pour être le trésorier de l'association, parce que pour gérer un projet comme ça, il a été décidé de créer une association. Donc il m'a demandé à moi d'être le secrétaire de la longue route, chose que j'ai acceptée. Et étant donné que je vis chez mes parents avec eux, à la suite de cette aventure, je ne me voyais pas rester à la maison. Du coup, j'ai pu voir avec mon travail et avec mon supérieur si je pouvais poser les 15 jours de vacances nécessaires pour accompagner mon père dans cette aventure.
Est-ce que vous pensez que vous allez peut-être vous découvrir autrement ou ça va vous sortir un peu l'esprit du quotidien pas facile et de la maladie ?
Ça va, dans tous les cas, ça va aussi bien mon père que moi nous changer de ce qu'on fait habituellement à la maison en fait. Et ça va certainement permettre effectivement de voir autre chose et d'aborder les différents aspects de la maladie et de l'aventure différemment.
Avec précaution quand même, hein, il faut le dire, vous avez préparé tout ça pour que la sécurité et la santé soient assurées.
C'est ça, oui, on essaye de préparer le plus solidement possible la sécurité sur la route, puisqu'on va quand même emprunter des routes départementales et à certains moments nationales, et la santé aussi, ménager nos relayeurs, parce que la sclérose latérale amyotrophique a cette particularité que plus les malades vont forcer, plus la maladie va évoluer vite. Un des conseils que la neurologue que mon père a vu au début lui a donné, c'est de s'économiser. C'est économiser son corps et ses muscles permettent en fait non pas de retarder, mais de gagner le maximum de temps sur la maladie.
La ralentir, on pourrait dire, en tout cas faire ralentir l'accroissement de la dépendance. Michel, on parlera après la pause du quotidien hein, d'Alexandre et son père Gilles. Est-ce qu'une aventure comme celle-ci, ou n'importe quelle aventure et défi un peu extraordinaire, puisqu'il y a des gens qui font comme ça des choses un peu fabuleuses, apporte quelque chose véritablement au duo aidant, personne aidée, un père et son fils, un mari et une femme?
Bien sûr, c'est une façon de vivre autre chose que le contexte habituel. Et là, ce sera deux partenaires de sport, et pas seulement le père et le fils. Ils vont s'épauler l'un l'autre, ce qui change un petit peu les relations. En règle générale, ce sont les pères qui protègent leurs enfants. Donc là, en tant que partenaire de cette course, effectivement, ils vont mettre en place forcément une relation différente, plus égalitaire, on pourrait dire.
Le témoignage d'Alexandre aujourd'hui avec nous au téléphone, la suite de son histoire dans quelques instants. La parole aux aidants répond aussi à vos questions Internet et Facebook dans la dernière partie de l'émission. On se retrouve dans quelques minutes sur Vivre FM.
Vous écoutez La parole aux aidants avec Christophe Bougnot
et Michel Guimel-Jambonnet.
La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h comme chaque vendredi sur Vivre FM. Je suis accompagné de la psychologue Michel Guimel-Chambonnet qui vous écoute, qui vous conseille. Vous pouvez contacter Vivre FM pour témoigner à l'antenne 01 56 88 40 20. Aujourd'hui avec nous au téléphone Alexandre Houbard qui est le fils de Gilles qui est atteint de la sclérose latérale amyotrophique. Il nous parle de la manière dont il l'aide au quotidien, on va voir ça, et aussi d'une aventure assez fabuleuse, un relais en fauteuil électrique qui commencera le 30 mai et qui reliera la Savoie où il vit à Paris avec son papa. Donc, vous partagez, vous aidez au quotidien, votre papa Gilles, puisque vous habitez chez vos parents, Alexandre. Votre maman Josiane participe aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés concrètes au quotidien de Gilles et qui s'occupe de quoi à la maison ?
Alors, oui, bien sûr. Actuellement, la SLA est une maladie qui progressivement fait perdre la mobilité de tous les muscles à la personne qui en est atteinte. Donc quand je suis rentré chez mes parents il y a maintenant 5 ans, mon père était encore autonome. Il marchait encore sur un rayon d'à peu près 1 km. Et puis le temps passant, la maladie évoluant, maintenant mon père est sur son fauteuil roulant électrique. Il est assisté d'une ventilation non-invasive pour à peu près 20 heures par jour pour pouvoir respirer sans difficulté. Ses mains sont... Il a perdu de la force dans les mains. Donc en fait, actuellement, donc, les journées se déroulent avec le lever, le petit déjeuner, la toilette, les passages des différentes personnes des services médicaux comme kiné et infirmière en fait. Et puis après, bah, y a le repas, il y a l'après-midi qui se passe en général avec l'association. Donc là maintenant, il y a beaucoup de travail l'après-midi. Donc il y a des amis, puisque moi la journée je suis au travail, il y a des amis qui viennent à la maison pour aider mon père dans la préparation de l'organisation. Et puis après, il y a donc le soir, donc le repas du soir, avec en fin de journée, bah, le transfert sur le lit, à savoir que dans la journée, il y a quand même plusieurs transferts, fauteuil, lit, lit, fauteuil.
Vous faites ces gestes-là parfois, vous-même ?
Oui, oui, moi, principalement, je m'occupe quand je rentre du travail le soir, donc le matin, ce qui m'arrive de faire, c'est surtout la préparation des médicaments. Et puis le soir, donc c'est surtout des transferts ou au repas, donc couper la viande, ce genre de choses, quoi.
Mmh. Alors vous nous avez dit que vous avez habité ailleurs et que vous êtes revenu vivre chez vos parents. Ça a été un choix évident pour vous ? Ça a été un non-choix peut-être ?
Alors à la base, je suis revenu chez mes parents suite à un changement de situation personnelle.
Oui.
Et puis ne pouvant pas garder l'appartement sur lequel j'étais parce que au prix du loyer en fait c'était pas possible. Du coup mes parents m'ont proposé de rentrer à la maison pour justement me refaire une petite santé financière et puis voir après. Et puis les choses se faisant, j'ai décidé de rester et le fait d'être à la maison, ça aide, je donne mon aide à mes parents.
Si vous n'étiez pas là, ce serait compliqué, vous pensez ?
Si je n'étais pas là, certainement d'autres décisions auraient été prises. Peut-être une aide à domicile, une personne qui viendrait aider plusieurs heures à la maison. Faudrait voir comment les choses auraient été faites.
Michel Guimel-Chambonnet, alors Alexandre a raison d'expliquer que les aides professionnelles se renégocient au fur et à mesure en fonction des disponibilités de chacun. Et ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé d'être disponible à plein temps.
Absolument.
Pour son proche.
Et alors, les aides se renégocient en fonction des disponibilités et aussi en fonction de l'état de la personne qui a besoin de cette aide. Malheureusement, la plupart du temps, les maladies sont évolutives, celles-ci comme d'autres. Et donc, on sait bien que l'assistance, l'accompagnement va devenir de plus en plus important à la fois en durée, dans le temps, mais aussi en nombre d'activités, d'actes à faire pour la personne dépendante. Donc effectivement, il faut diversifier cette aide et il ne faut surtout pas que la famille se sente contrainte de rester là en permanence et de faire tout ce qui est à faire. Déjà maintenant, je pense que les médicaments pourraient être mis dans le pilulier par l'infirmière. C'est son travail, c'est son rôle. Alors vous le faites certainement très bien, bien sûr, et très attentivement, mais ça n'est pas de votre ressort en principe. De même, il y a la toilette, il y a un certain nombre d'actions qui pourraient être faites professionnellement, comme par exemple pour les transferts, utiliser ce qu'on appelle un lève-malade qui permet à la fois pour celui qui aide et pour celui qui est aidé de passer de son fauteuil à son lit dans une plus grande sécurité, parce qu'on ne se casse pas le dos ni l'un ni l'autre.
Après, voilà. Plein de choses comme ça. Comme dit Alexandre, il y a toujours le soir, la nuit, le moment où il faut pouvoir
réagir. Oui, une présence, qui est nécessaire.
Et dépanner et faire le geste dans le moment, dans l'instant.
Mais en même temps, c'est tout de même moins lourd de faire ces gestes la nuit, si vraiment il y en a besoin, que de les faire tout au long de la journée. Effectivement, on ne peut pas laisser quelqu'un toute la journée, enfin, sauf si son état est vraiment très, très critique. Mais on ne peut pas le laisser dans son lit toute la journée. Il a besoin d'aller aux toilettes, par exemple. Bon, il y a un certain nombre de choses comme ça. C'est vrai qu'une aide professionnelle serait la bienvenue. Par ailleurs, pour lui, pour pouvoir sortir, pour vivre sa vie de jeune homme, il a aussi besoin d'avoir du temps.
Alors là, vous nous avez parlé, Alexandre, d'un kiné, d'infirmière. Est-ce que vous envisagez, et est-ce qu'il va falloir aller plus loin et accroître cet accompagnement professionnel? C'est peut-être pas facile à organiser tout ça, je ne sais pas si c'est simple d'articuler tous les rendez-vous, les venues, en fonction de l'état de votre papa.
Eh bien écoutez, c'est surtout mon père qui s'occupe pour tout ce qui est son agenda, c'est surtout lui qui s'en occupe avec les kinés justement et les infirmières. Et bon, pour le moment ça se passe très très bien, hein. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Après effectivement, avec l'évolution de la maladie, peut-être qu'à un moment il faudra penser à un accompagnement plus long, en fait, si vous voulez, mais oui. Actuellement les choses se passent bien, mais c'est effectivement la maladie, la SLA évoluant de façon irrémédiable jusqu'à une paralysie totale. Au bout d'un moment, effectivement, il faudra peut-être certainement quelqu'un pour venir aider à la maison.
Mais il me semble que Michel, ce qui est important, c'est de parler de ces questions-là et que quelqu'un vienne très peu maintenant, puisque maintenant, heureusement, votre père peut encore faire un certain nombre de choses avec votre aide. Mais ça va le préparer et ça va vous préparer au moment où il pourra en faire un petit peu moins. Et progressivement, la personne qui viendra ou les personnes qui viendront augmenteront leur temps de présence. C'est comme ça, vous arrivez à un ajustement au fur et à mesure des besoins, mais il n'y a pas l'entrée tout d'un coup d'une équipe étrangère à la famille et étrangère à la maison et vous avez l'impression d'un envahissement. Il faut faire les choses progressivement pour les digérer en quelque sorte. Et du coup, tout devient plus facile.
Alors ça, ce sont des conseils, effectivement, que vous donnez à tous ceux qui nous écoutent, Michel. Hein, oui. Souvent, dans cette émission, c'est important d'anticiper et puis d'en parler tous ensemble. On n'a pas parlé, Alexandre, de votre maman, Josiane, qui aide aussi, hein, par voie de conséquence. Elle a pu ressentir des moments comme ça de fatigue ou de découragement un petit peu.
Écoutez, effectivement, quand on vit, ma mère est actuellement à la retraite en fait, donc elle s'occupe beaucoup de mon père. Effectivement, il y a des jours où elle peut être un peu plus fatiguée, mais elle a une volonté d'acier à accompagner mon père et à l'aider dans ses journées en fait. Et heureusement, il y a aussi des amis à nous qui de temps en temps viennent, qui permet à ma mère de pouvoir ne serait-ce que passer l'après-midi pour boire un café avec mon père. À ce moment-là, ma mère peut aller soit jardiner, soit des choses dans ce genre-là.
Oui, bien sûr. Elle peut sortir et elle a quelques instants pour elle. Et je pense que c'est ça qui est important, bien sûr.
Prévoir des moments comme ça de relais. Vous, Alexandre, lorsque vous n'êtes pas là, vous arrivez à penser à autre chose ou c'est vrai que l'inquiétude, elle est comme ça, toujours présente lorsqu'on a un parent qui peut être mal ou qui peut être moins en sécurité qu'à l'habitude, parce que c'est difficile de se déplacer. Il a fallu, par exemple, adapter la maison. Et il y a toujours la peur que la personne tombe ou quelque chose comme ça.
Eh bien, écoutez, que je sois au travail ou en sortie avec des amis, l'inquiétude, effectivement, est toujours présente, peut-être un peu plus en arrière-plan plutôt qu'au premier plan quand on est quand je peux être à la maison, mais après effectivement l'inquiétude est là, mais le fait d'être présent et de pouvoir réagir, les jours où je suis pas là sur des problèmes un peu plus techniques, si vraiment il y a des soucis, on peut compter aussi heureusement sur la solidarité de voisins ou d'amis qui en cas de problème viennent nous dépanner.
Voilà, Michel, ça c'est conseil qu'on peut donner pour terminer ce témoignage, de ne pas rester tout seul, effectivement.
Ne pas rester isolé, parler, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut nouer des liens, quand tout va bien et même quand tout va mal. Et puis effectivement, savoir faire appel aux autres quand on a besoin d'un coup de main, c'est essentiel. Et je pense que c'est comme ça. Et je suis contente d'avoir entendu qu'Alexandre dit « quand je sors avec des amis », ça veut dire qu'il ne reste pas enfermé tout le temps à la maison, et ça c'est important. même si il a un fond de préoccupation, on va dire, en arrière-plan, mais au moins il sort, il va voir des gens de son âge, ça c'est important.
On peut constater que parfois il y a un envahissement un petit peu trop fort
des
soucis et de son proche dans ses pensées, hein, vraiment dans la tête.
Tout à fait.
Et ça peut être un signe qu'on va trop loin ou que...
Qu'on va trop loin et qu'on n'a pas pris suffisamment de relais autour de soi pour accompagner la personne dépendante. C'est vraiment pour ça que j'insiste toujours. Faites appel à des professionnels. La sécurité sociale est là, les mutuelles sont là. C'est vrai que tout ça coûte très cher, mais heureusement, on a une chance formidable en France d'avoir quand même des protections sociales. Tant qu'on les a, utilisons-les. Il y a des protections sociales qui nous permettent de faire appel à de l'aide professionnelle. Il faut le faire.
Le relais, c'est le mot important aujourd'hui.
Tout
et justement, je rappelle que le relais en fauteuil électrique de l'association La Longue Route des Malades de la SLA débute le 30. Il relie la Savoie à Paris. Son succès dépend de la participation du public. Vous pouvez apporter un soutien via la campagne de crowdfunding sur Internet, KissKissBank. Et vous pouvez retrouver toutes les infos sur www.longueroute-sla.org. J'ai prévu de remettre toutes les coordonnées sur le site vivrefm.com. Merci beaucoup Alexandre Houbart pour votre témoignage et bonne route.
Voilà, bonne route.
Merci, au revoir.
Et dans quelques instants, c'est la suite de l'émission. La parole aux aidants répond à vos questions. Michel Guimel-Chambonnet, c'est elle qui répond à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
La parole aux aidants, Christophe Bougnot, Michel Guimel-Chambonnet.
La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. C'est la dernière partie de l'émission du vendredi. Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions. Vous pouvez poser vos questions sur l'aide familiale que vous procurez à votre proche au quotidien. Vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook également en envoyant directement un message. Lucien nous écrit du 14e arrondissement de Paris. Ma femme Jacqueline parle moins bien à cause de sa maladie de Parkinson, mais elle a encore tout son esprit. Elle m'a dit que je lui coupais trop la parole, elle s'est mise dans une colère noire et elle a cassé la vaisselle. C'est la première fois qu'elle faisait ça, j'ai assez peur, que faire?
Alors, sérieusement, la laisser parler. C'est-à-dire qu'effectivement... Je crois qu'il est très douloureux pour quelqu'un qui a du mal à parler, à articuler, que l'entourage finisse les mots à sa place ou finisse les phrases à sa place. C'est souvent quelque chose qui dépossède la personne qui fait tellement d'efforts pour dire ce qu'elle a à dire. Donc, il faut s'armer de patience, pas seulement dans le cas d'une personne atteinte de Parkinson. Dans tous les cas, on rencontre la même chose chez les gens qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer. On rencontre la même situation avec les gens qui sont bègues, donc qui ont du mal à articuler. Donc, dans tous les cas, on laisse la personne prendre le temps qu'il lui faut pour dire les choses tranquillement. Et on ne manifeste pas d'impatience en piétinant, en se tordant les doigts, etc. Bon. Et là, si cette femme... est arrivée à casser la vaisselle, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus la possibilité de dire verbalement la quantité de colère et probablement de douleur morale qui était en elle, elle l'a transformée en geste. Bon, c'est pas les meilleurs gestes, évidemment, mais on peut comprendre. Donc, à partir d'une situation comme celle-ci, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se parler tranquillement, gentiment, de façon à apaiser les tensions et dire « Dis-moi comment tu veux que je fasse pour que ça soit plus confortable pour toi. Et je m'y tiendrai. » Et je pense que ça n'est pas du tout... Enfin, c'est un éclat, mais ça n'est pas du tout la fin d'une bonne relation.
Vos questions des aidants familiaux sur vivrefm.com. Xavier nous écrit de la ville de Clichy-la-Garenne. « Ma fille est malvoyante, elle est à l'âge où ses copains lui proposent très souvent de sortir tard. À 16 ans, comment savoir si elle se mettra en danger à cause de son handicap? Sa mère refuse qu'elle sorte et je joue actuellement un peu le rôle du médiateur, mais j'aimerais avoir vos conseils. »
Alors, l'interdiction absolue, ça n'est pas une bonne chose parce que ça peut pousser la jeune fille à sortir en cachette ou au contraire, si elle ne sort pas en cachette, à se renfermer sur elle-même et petit à petit à perdre les copains. Le mieux, ce serait d'essayer avec la jeune fille et avec les copains, de faire une petite réunion et dire aux copains, voilà, vous savez que notre fille, ou la jeune fille le dira elle-même, vous savez que je suis malvoyante. Alors, malvoyante, malheureusement, c'est un terme qui ne veut rien dire. Est-ce qu'elle est complètement aveugle? Est-ce qu'elle a juste des troubles suffisamment importants pour ne pas être à l'aise quand c'est le soir? Ça, on ne sait pas. Bon, mais en tout cas, elle peut dire avec les copains et les parents, voilà, je peux sortir, et les parents peuvent dire, nous l'autorisons tout à fait à sortir, simplement, il faut qu'il y en ait un de vous, un ou une, qui soit garant et qui la ramène jusqu'à la maison. Puisque on sait qu'elle ne peut pas revenir seule. Et évidemment, une sortie sympathique, c'est pas pour perdre la vie, c'est pour aller s'amuser. Donc je crois que vraiment, là, il y a une possibilité de discussion, de faire venir les copains. Les copains savent bien qu'elle ne voit pas. Donc, ils savent bien aussi dans quels endroits ils peuvent l'emmener ou pas. Et ils ne vont pas l'emmener faire de la varap en pleine nuit. Mmh. Bon, voilà. Enfin, il faut aussi faire confiance aux jeunes.
Ça peut être une tentation des parents et notamment de la maman, là,
actuellement, il faut discuter.
D'interdire parce que les parents ont vécu tous les instants du passé, toutes les difficultés,
oui,
le handicap.
C'est sûr, mais les parents ne vont pas rester derrière leur fille jusqu'à la fin des temps et il y aura bien un moment où il faudra qu'elle aille faire des choses par elle-même. Donc, autant apprivoiser cette autonomisation de l'enfant. C'est ça qui est important. C'est lui apprendre petit à petit. Mais exactement comme on apprend à tous les enfants à traverser la rue, un jour ou l'autre, ils vont aller tout seuls à l'école, par exemple. S'il y a une rue à traverser, ben on leur apprend quand le petit bonhomme est rouge, on ne bouge pas. Quand le petit bonhomme est vert, on regarde encore une fois de plus et on commence à traverser. Enfin, il y a des choses à apprendre. Donc, pour une jeune fille handicapée, c'est la même chose. Il faut qu'elle apprenne et il faut que ses parents accompagnent cet apprentissage.
Question des aidants familiaux, posez vos questions si vous le souhaitez sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant directement vos messages. Fanny nous écrit de La Rochelle. Depuis que mon mari retravaille, j'ai beaucoup de mal à m'occuper seule de notre fils Thomas qui est polyhandicapé. Je vois les autres mamans qui s'amusent au parc et moi je suis remplie de tristesse. Aidez-moi.
Alors, effectivement, ce que dit cette femme est tout à fait important et c'est elle qui doit pouvoir partager avec un professionnel l'aide que lui apportait son mari. C'est normal que son mari ait repris le travail. Par contre, ce n'est pas normal qu'elle soit seule pour s'occuper d'un enfant polyhandicapé. Donc, il faut vraiment voir avec la MDPH, Maison départementale de la personne handicapée, quelles sont les aides auxquelles l'enfant peut prétendre, quelle nature, est-ce que ce sont des heures dans un établissement, est-ce que ce sont des heures d'une aide humaine qui viendrait au domicile. Et enfin, en tout cas, une aide qui permettra à la maman de s'occuper de l'enfant, bien évidemment, mais pas à plein temps et pas complètement seule.
Il existe quelque chose entre s'occuper complètement de son enfant et le laisser complètement vivre dans un établissement.
Bien sûr, bien sûr. Ben, y a tout ce qu'on appelle hôpital de jour, où la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, va le matin, 9-10 heures, et ressort le soir à 4 heures, 5 heures, 6 heures. Enfin, ça dépend des établissements, ça dépend aussi de la pathologie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais effectivement, il y a de toute façon des accueils temporaires. Il y a quelquefois un accueil à la semaine, et puis le week-end, la personne revient à la maison. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui existent. Il n'y en a pas suffisamment, je suis d'accord. C'est difficile d'avoir une possibilité d'intégrer ce type d'établissement. Mais pour les jeunes, c'est quand même plus facile. Et il faut absolument se renseigner, demander à la MDPH, voir aussi avec l'hôpital le plus proche ce qui est possible. Enfin, il y a des choses à faire. Un jeune polyhandicapé n'est pas seul dans la nature, c'est pas possible.
Question des aidants familiaux, vivrefm.com pour vos questions. Sophie nous écrit de Rueil-Malmaison. Ma mère a un problème avec une aide-soignante à la maison de retraite. Elle a été laissée nue dans la chambre pendant 20 minutes. Alors elle l'a insultée, l'aide-soignante, ma maman, parce qu'elle avait froid. La directrice est intervenue et a donné un avertissement comportement à ma mère, un peu comme à l'école. Je trouve ça dingue. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, je partage cette opinion. C'est complètement dingue, c'est inadmissible. D'abord parce qu'on ne laisse pas une personne nue, quelle que soit la température. Il y a une question de respect, de pudeur, de décence. Donc, l'aide-soignante, de toute façon, est en faute. Ça, c'est incontestable. D'autre part, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait aucune parole qui ait pu être échangée et qu'il n'y a eu que des insultes, et je suppose de part et d'autre, puisque généralement, une insulte en appelle une autre en réponse. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc, je crois que plutôt que de faire toute une histoire de quelque chose qui est vraiment, au tort de l'établissement, il faut que la famille essaye de calmer le jeu, revoie la directrice de l'établissement.
On organise un rendez-vous, là, tout de suite, dans les jours qui
viennent. Faire un rendez-vous, demander éventuellement au médecin de l'établissement de venir. Enfin, essayer à la fois d'apaiser les choses et aussi de mettre carte sur table en expliquant, en rappelant que c'est une maltraitance grave. Enfin, ça peut relever d'un tribunal quand même. Donc, il faut effectivement, même si on sait il manque de personnel, tous les établissements sont en difficulté, mais il y a quand même des choses, au moins on rabat un drap sur quelqu'un, hein, de toute façon. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose qui peut se discuter, qui peut s'apaiser, parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il y ait une espèce d'abcès qui se forme et qui reste comme ça, qui se cristallise jusqu'au moment où ça explosera de façon véritablement dramatique. Donc il faut parler, une fois de plus, il faut parler.
Question de Nadia. Nadia nous écrit du 17e arrondissement de Paris. On ne sait rien sur l'AVS de mon fils qui va être remplacé dans 2 mois pour cause de congé maternité, l'AVS, l'auxiliaire de vie scolaire. Mon fils est hyperactif et très émotif. Comment avoir des informations à l'avance? Comment le préparer à ce changement?
Alors, la première chose à faire, c'est de le préparer au changement. Quand il s'agit d'un congé de maternité, je dirais que c'est bien, parce que le ventre de l'AVS est en train de grandir, de grossir, et l'enfant ne peut pas ignorer que dans ce ventre, il y a un bébé qui grandit aussi. Donc, il a là la preuve matérielle de l'absence à venir de son AVS.
Il y a une explication.
Voilà, il y a une explication, ça n'est pas lié à lui, c'est d'une certaine façon le cas le plus simple. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Donc, le préparer, lui expliquer, l'AVS peut lui dire, voilà, il y a un bébé dans mon ventre qui va sortir, donc je serai obligée de m'arrêter de travailler. Éventuellement, je reviendrai plus tard, je ne sais pas, mais tu auras grandi, tu auras peut-être changé de classe. Enfin, bon, voilà, on esquisse un avenir en montrant les côtés positifs de cet avenir. Bon, maintenant, dire exactement ce qui va se passer après, ça c'est très difficile, puisque on le sait, les rectorats ne savent jamais quand ils vont trouver quelqu'un pour tenir ce poste d'AVS. Les AVS nous l'ont dit déjà 10 000 fois, c'est la veille du jour où je dois commencer qu'on me dit « Eh ben, vous irez dans telle école et vous ferez telle chose ». Bon, donc ça, c'est très difficile, mais c'est une réalité et je pense que...
Qui pourrait changer quand même, évoluer, non, ça serait pas mal.
Ça, c'est un autre débat. Bien sûr que ça devrait changer. Mais en tout cas, pour ce qui est de cet enfant, c'est une réalité et la famille et l'école peuvent lui expliquer que ben, on ne sait pas, parce que la direction tout en haut, de l'éducation nationale ne sait pas, mais on va faire tout notre possible pour que tu aies une AVS. Donc ça, c'est quand même une parole positive, et je pense qu'un enfant normalement constitué, même s'il est hyperactif, même s'il est émotif, peut tout à fait le comprendre.
La psychologue Michèle Guimel-Chambonnet répond à vos questions chaque vendredi dans la dernière partie de l'émission, vivrefm.com, la page Facebook, en envoyant directement vos messages. Vous souhaitez passer à l'antenne, témoigner de vos difficultés, de vos succès. 01 56 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM. 01 56 88 40 20. Merci Michèle.
Au revoir Christophe.
Vivre FM, podcast.